le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Aujourd'hui, nous recevons Louis Pernaud de l'Église protestante unie de France. Il est pasteur au Temple de l'Étoile à Paris. Ce matin, le pasteur Louis Pernaud se demande quand Jésus reviendra-t-il.
Criez de joie pour l'Éternel, à vous la louange. Rendez grâce sur le luth à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole de l'Éternel, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le cherchent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort et les garder en vie au jour de manque. Nous attendons notre vie de l'Éternel, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour éternel soit sur nous, comme notre espoir est en toi. C'est par ces belles paroles du psaume 33 que nous avons entendu chanter que je veux vous dire la bienvenue à vous, qui que vous soyez, pour cet instant que nous allons partager autour de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et à chacun, sans condition, Dieu donne sa grâce et sa paix en Jésus-Christ. Il est dans l'Évangile de Jean un chapitre des plus beaux. C'est le 14e. Nous y trouvons un discours de Jésus plein de douceur et de bonnes promesses. Il y est question d'amour, de consolation, de paix. Jésus y dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous promet la venue du Paraclet, le Consolateur, le Défenseur, qu'est le Saint-Esprit. Mais il s'y trouve aussi une annonce qui pose de grandes questions. C'est celle de son retour. Il dit ainsi au début, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Je m'en vais et vous prépare une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Très bien, mais qu'entend-il par là? Jésus va-t-il vraiment revenir et nous prendre avec lui? Mais alors, qui, quand et comment? Et un peu plus loin, dans le même chapitre, à partir du verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais et je reviendrai vers vous. » Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Dans ce chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus annonce à deux reprises son retour. De nombreux chrétiens attendent aujourd'hui encore le retour du Christ sur la terre. C'est ce que les théologiens appellent du terme technique de parousie. Certaines églises font même de l'attente de ce retour un élément central de leur prédication. Ainsi, les églises dites millénaristes enseignent que Jésus va revenir, qu'il va rétablir la justice sur la terre, qu'il va régner 1000 ans avec les justes, puis aura lieu la fin du monde et le jugement dernier. Et même sans trop préciser les modalités de ce retour, aujourd'hui encore un bon nombre de chrétiens, tant protestants que catholiques, professent une pensée apparentée et apposent sur leur voiture des autocollants proclamant « Jésus revient » ou chantent des cantiques modernes dont la dernière strophe souvent fait allusion à ce retour tant attendu. Mais à l'opposé, un bon nombre de chrétiens n'attendent guère ce retour et considèrent que Jésus est venu une fois pour toutes et que c'est maintenant à l'homme, avec l'aide de Dieu, de faire le mieux possible dans ce monde qui lui est confié. On peut ne pas attendre la parousie, mais on ne saurait nier que ce retour est annoncé par l'Écriture, dans le texte que nous avons entendu, et bien sûr en particulier dans le récit de l'Ascension. On lit en effet dans les Actes des Apôtres « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et dans d'autres passages encore, il semble que Jésus lui-même ait annoncé une fin du monde imminente, avec en particulier ce grand discours dit de l'Apocalypse synoptique, comme en Matthieu 24, où interrogé sur la fin des temps, Jésus déclare « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive ». Et là, justement, se trouve une difficulté pour les millénaristes. Certes, Jésus les a annoncés, cette fin du monde, ce retour du Fils de l'homme, mais apparemment, il y a un certain retard, puisque 2000 ans après, de nombreuses générations ont passé et on attend toujours. Alors pour résoudre la difficulté de cette apparente annonce imminente de la fin des temps, les tenants du retour matériel du Christ disent qu'il faut entendre le mot « génération » au sens large de « civilisation ». Bon, pourquoi pas. Mais dans notre texte de Jean, Jésus dit à ceux qui l'écoutent « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Cela suppose que ses interlocuteurs soient encore en vie au moment où il reviendra. Sinon, il serait déjà près de Dieu et Jésus n'aurait pas besoin de revenir. Sans doute d'ailleurs, les disciples de Jésus l'ont-ils cru, puisqu'on les voit, après la mort du Christ, tout vendre et cesser de travailler pour accueillir cette venue imminente. Mais voilà, ce retour n'a pas eu lieu, Jésus n'est pas revenu et il ne les a pas pris avec lui. Qu'a donc voulu dire le Christ? Et puis enfin, théologiquement, on peut avoir une objection majeure à cette théologie de l'attente du retour du Christ. Le message essentiel de l'Évangile, c'est que le Christ est venu. Ce qui veut dire le Messie est venu, et non pas Christ va venir. À Noël, tous les ans, nous fêtons la venue du Christ, le Messie. Et le message de Noël, c'est que nous sommes dans les temps messianiques, et que justement, il n'y a plus à attendre. Si nous sommes dans les temps messianiques, c'est que tout est accompli, et ce n'est pas pour plus tard. C'est précisément même ce qui distingue les Juifs des chrétiens. Les Juifs attendent, et les chrétiens n'attendent plus. La position millénariste fait retourner le chrétien dans le judaïsme, en ce sens qu'il ne vit plus de la venue du Messie, mais de l'attente de la venue du Messie. On peut même soupçonner chez les millénaristes une dépréciation de la valeur et de l'importance de la venue du Christ, puisqu'ils attendent encore autre chose, comme si le Christ n'avait pas déjà tout accompli. Or, la foi en Jésus Christ, c'est qu'il est le Messie et qu'en lui, Dieu a déjà tout accompli. La bonne nouvelle du Christ n'est pas une promesse sans cesse reportée, comme si l'on annonçait un demain qui rase gratis, mais la bonne nouvelle, nous l'avons. Elle a été pleinement donnée et accomplie en Jésus. Sachons la reconnaître et la vivre pleinement. Et puis, la prédication de la théologie de l'attente n'est pas dépourvue du risque de démobiliser l'homme. Si Jésus va revenir pour rétablir toute justice, alors je n'ai, moi, rien à faire ici-bas que d'espérer et d'attendre ce retour. Et puis, de deux choses l'une. Ou bien ce retour, je le verrai moi. Alors, effectivement, je n'ai plus à m'engager dans le monde, ce qu'était l'attitude des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, qui avaient tout vendu, cessé toute activité pour se consacrer à la prière. Ou bien je ne la connaîtrai pas personnellement, alors à quoi me sert l'annonce d'un événement qui ne me concerne pas? De toute façon, puisque cela fait 2000 ans que le retour du Christ, pas plus que la fin du monde, ne sont intervenus, cela voudrait dire que cela fait 2000 ans que les chrétiens lisent des textes apocalyptiques qui ne les concerneraient pas. Cela, en soi, est choquant. Je crois, en effet, que le message du Christ, comme tout texte biblique, concerne tout chrétien à tout moment dans son « ici et maintenant ». Alors, si nous n'avons pas à vivre dans l'attente du retour du Christ, ou dans celle de la fin du monde et du jugement dernier, comment comprendre les propos que nous avons cités et qui semblent néanmoins aller dans ce sens? Comment comprendre donc ces paroles du Christ annonçant un retour qui n'a pas eu lieu? Il y a des théologiens critiques, libéraux extrêmes, qui affirment d'une façon brutale que, tout simplement, sur ce point, Jésus et à sa suite les disciples se sont trompés. Ils ont cru à une fin du monde imminente à tort. Cela règle le problème. Mais on pose un autre de taille. Si Jésus s'est trompé sur un point aussi essentiel que celui-ci, est-ce que cela ne remet pas en cause pratiquement l'ensemble de sa prédication, de sa conception du monde, du rôle de l'homme, de la manière avec laquelle il doit se comporter dans le monde? Certes, il est à peu près évident que les premiers chrétiens ont, eux, partagé cette opinion. Ils ont cru à un retour imminent du Christ. Et eux, en tout cas, se sont trompés, puisque ce retour n'a pas eu lieu. Leur attitude, fondée sur cette erreur théologique, a entraîné la première communauté chrétienne, décrite dans les Actes, dans une situation problématique. En effet, le Christ tardant à revenir, Et comme ils avaient tout vendu et ne travaillaient plus, ne faisant que prier, les premiers chrétiens se sont vite retrouvés dans une situation matérielle catastrophique, au point que Paul devait faire la mendicité dans tout le bassin méditerranéen pour essayer de faire vivre les pauvres de Jérusalem, comme il disait. Mais on peut penser que cette erreur n'était que le fait des disciples, et non du Christ lui-même. Ce peut donc être les disciples qui ont interprété comme cela des propos du Seigneur qui étaient d'un autre ordre. Naïvement, ils ont cru à un retour matériel et imminent du Christ, alors que Jésus, lui, parlait de tout autre chose. En particulier, on peut penser que le Christ évoquait son retour dans un sens spirituel et intemporel, et non pas comme un événement historique. De même, il se disait « roi des Juifs », mais dans le sens d'une royauté spirituelle, affirmant « mon royaume n'est pas de ce monde ». Ainsi, le Fils de l'homme doit bien revenir, mais pas comme étant de ce monde, comme une réalité spirituelle. Christ doit revenir dans nos cœurs pour habiter en nous, afin qu'il soit en nous. Il ne s'agit pas d'un événement matériel, historiquement datable, à un moment précis, à un lieu précis pour tout le monde, mais d'une expérience que chacun doit expérimenter dans sa propre vie, en faisant de cette venue du Christ une réalité en soi et dans sa vie. Christ est venu dans le monde il y a 2000 ans. Encore faut-il qu'il revienne aujourd'hui dans le cœur du croyant pour être présent réellement dans son existence. Il semble même que ce soit précisément ce qu'explique le Christ dans ce passage de l'Apocalypse de Matthieu au chapitre 24. Quand il enseigne « Si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici ou il est là », ne le croyez pas. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Car la venue du Fils de l'homme sera comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Le Christ doit revenir dans nos vies, mais non comme un événement matériel, mais comme, dit-il, une grande lumière qui traverse tout de l'Est à l'Ouest. Mais ce n'est évidemment pas une lumière qui se compte en kilowatts, ni un événement physique. Cette lumière, c'est la même que celle dont parle le psaume 27 quand il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Ou encore l'évangile de Jean quand Jésus lui-même dit « Je suis la lumière du monde ». Il s'agit évidemment d'une lumière intérieure, un éclair spirituel qui doit illuminer toute une vie. Et le texte ajoute « Là où sont les corps, là s'assemblent les aigles ». Ça peut sembler un peu mystérieux, certes. Mais c'est pour dire que le Christ doit venir dans nos vies comme la puissance de l'aigle. Or, l'aigle, dans la Bible, c'est l'image de l'élévation spirituelle, de la foi qui s'élève du matérialisme de la terre pour aller vers le spirituel du ciel. Et le lieu de cet événement extraordinaire, c'est chaque corps mortel. Chacun de nous est le lieu même du retour du Christ. Ce qui se fait quand nous nous élevons à Dieu, et cela tout de suite, si possible. De la même manière, quand nous disons dans le Notre Père « Que ton règne vienne », nous ne nous mettons pas dans une situation passive en demandant à Dieu de faire vite pour accélérer la venue de la fin de ce monde pourri, ou que Jésus vienne prendre la place de notre président de la République pour prendre un pouvoir politique. Ce n'est pas une question politique, mais au contraire, nous exprimons le souhait que nos propres vies puissent devenir de plus en plus le lieu même de l'écoute, du service et de l'obéissance à Dieu, ce que l'on exprime par le règne de Dieu. Et Jésus enseigne précisément que du royaume, on ne dira pas « Voyez, il est ici ou il est là », car « Voyez, dit Jésus, le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous ». Et de même encore, l'Apocalypse. L'Apocalypse ne parle pas non plus d'un événement catastrophique qui doit arriver, mais elle parle de la fin du monde dans le sens de finalité. Fin comme cette fin qui ne justifie pas toujours les moyens. Cette fin, ce but, c'est ce qu'il advient du monde matériel quand le Christ se révèle. Ce qui arrive dans une vie lorsque le Christ se rend présent spirituellement. Évidemment, cela entraîne un certain nombre de bouleversements qui sont loin d'être des catastrophes, mais au contraire, des bonnes nouvelles, parce que ce sont des nouvelles naissances. Il est vrai qu'alors certaines choses disparaissent ou se défont, ce sont les attachements pervers, les anciennes attitudes, les aliénations, tout notre rapport idolâtre au monde terrestre. C'est aussi l'ancien homme qui laisse sa place au nouveau, l'ancien monde qui accouche du nouveau. Il est vrai aussi que la présence du Christ dans une vie va nécessairement de pair avec un jugement dernier. Mais pas dernier au sens où il serait le plus tardif en date, mais dans le sens où il est le plus essentiel, le plus fondamental. C'est cette présence du Christ qui nous permet d'attribuer à chaque chose dans notre vie sa vraie place, de savoir ce qui a une vraie valeur et ce qui ne vaut rien. Ce n'est pas à craindre, mais à espérer, parce qu'il y a bien là une véritable révélation, ce qui est le sens du mot apocalypse en grec. Comparaître devant le trône de Dieu, c'est non pas ce que nous redoutons, mais c'est ce que nous désirons le plus. C'est ce que nous faisons tous les jours dans la prière. La prière, c'est se mettre dans la présence de Dieu. C'est faire venir le Christ en nous, pour qu'il se révèle à nous, pour qu'il fasse mourir ce qui en nous n'est pas à lui, pour qu'il nous conduise à la vérité qui fait vivre. Oui, Christ revient sans cesse. Et sans cesse, il se tient à notre porte et il frappe, afin que nous le reconnaissions et que nous lui ouvrions notre porte, comme dit l'Apocalypse. L'annonce de l'Apocalypse n'est qu'une bonne nouvelle. Les choses anciennes sont passées et Dieu fait toutes choses nouvelles dès à présent. Ainsi, cette annonce de Jésus dans notre évangile de Jean, qu'il reviendra pour nous amener avec lui vers le Père, n'est pas une promesse pour un temps lointain où nous serons sans doute déjà tous morts. Mais c'est une promesse pour chacun de nous, de notre vivant. C'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter comme vrai à tout instant de notre vie. Que Jésus revienne vers nous, c'est ce que nous fêtons chaque année à Pâques. Et chaque dimanche, Christ est ressuscité, il est vivant parmi nous. Et à Pâques, nous ne disons pas « Jésus va ressusciter, il va revenir un jour ou l'autre », mais « il est ressuscité », donc Jésus est déjà revenu. Le tout, c'est que nous sachions le reconnaître et l'accueillir. Or évidemment, le mode de présence du Christ parmi nous aujourd'hui, il est spirituel. Il a dit lui-même « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous le croyons, mais nous n'attendons pas de voir Jésus physiquement, bien sûr. C'est une présence spirituelle. Le Christ ressuscité est aujourd'hui présent spirituellement. Il est revenu spirituellement. Et si nous savons l'accueillir, alors il nous emmène avec lui vers le Père. Il nous rapproche de Dieu. Il permet que notre vie accède à cette dimension spirituelle, invisible, immortelle et éternelle. Et voici, le retour du Christ n'est pas à attendre, mais à préparer en nous. Le jugement dernier n'est pas à craindre, mais à désirer, afin qu'il s'opère en nous le plus souvent possible. Et l'Apocalypse, le jugement dernier, le retour du Christ, c'est aujourd'hui et maintenant, pour chacun de nous, si nous le voulons bien. Ne le remettons pas à demain. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oui, viens Seigneur Jésus, viens te révéler à nous, viens te faire connaître pour que nous sachions t'accueillir. Viens toi-même rafraîchir nos vies brûlantes, viens raviver notre foi endormie, viens ressusciter tout ce qui en nous est prisonnier de la mort, du deuil ou de la tristesse. Viens donner vie à nos existences monotones, donner souffle à notre quotidien. Viens transformer nos vêtements de deuil en robes de fête. Viens, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, de ton esprit, pour que nous puissions vivre par toi et en toi. Tu es la source de l'amour, de la paix et de la vie. Donne-nous tous les dons de la grâce dont nous avons besoin pour vivre. Viens, ne tarde pas. Notre Père, celui du ciel, que sanctifié soit ton nom, qu'arrive ton règne, que soit faite ta volonté, comme le ciel, ainsi soit la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain éternel et laisse-nous ce que nous devons, comme aussi nous remettons à ceux qui nous doivent. Et fais que nous ne soyons pas enfermés dans l'épreuve, mais délivre-nous de la source même du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, la paix, la joie, au siècle des siècles. Amen. Mes amis, mes frères, mes sœurs, partageons la bénédiction de Dieu. Il nous la donne à nous tous, à chacun, sans condition et sans jugement. Dieu vous donne sa grâce et sa paix en Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur. Dieu vous bénit et vous garde. Allez dans sa paix, sa force et sa joie.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Quand Jésus reviendra-t-il ? C'était le thème de la méditation du pasteur Louis Pernaud de l'Église protestante unie de France. Louis Pernaud est pasteur au Temple des Étoiles à Paris. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Véronique Villa, à la prise de son Bernard Laniel. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter ou télécharger cette méditation, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Restez sur France Culture, dès 9h, vous retrouvez la rédaction pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.